Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. C'est une joie parce que c'est retrouver une église que nous avons fréquentée avec notre famille, une église dont j'ai été le pasteur. Alors ça commence à prendre un peu de... à faire un petit moment, hein. Il y a plusieurs visages que je ne connais pas et je m'en réjouis. Je me réjouis de voir que cette église est vivante, que cette église grandit. Parmi vous se trouvent nos enfants, Elliot et Esther, qui s'est mariée cette semaine avec James. Merci d'être leur église. Pour donner des nouvelles de mon côté, je prends le poste pastoral de notre église de la Fédération Baptiste à Champs-sur-Marne, dans l'Est parisien, à côté de chez Mickey. Et je le fais cette semaine, puisque je commence le 1er août. Voilà. Alors, j'ai oublié ma Bible, donc du coup, on va lire sur la tablette. Excusez-moi. Oui, mais j'ai ma traduction, tu comprends. C'est... Voilà. Voilà, tac. Donc, ce matin, je prends une prédication tirée de... d'un travail que j'ai fait avec l'église de Massy, où là-bas j'ai fait une série de prédications sur le sermon sur la montagne. Et cette prédication que j'ai retravaillée, que j'ai augmentée pour être avec vous ce matin, c'est la conclusion. Elle est sur la conclusion du sermon. Alors peut-être un petit rappel sur le sermon sur la montagne. Beaucoup, je pense, le connaissent, mais rappel, c'est un discours fondateur de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au début de l'évangile de Matthieu, après que Jésus ait rassemblé ses disciples. Il leur donne, en quelque sorte, il leur donne sa loi, comme Moïse l'avait fait en descendant de la montagne sur une montagne. Jésus donne sa loi à ses disciples. Et j'avais envie de revenir à ce texte fondateur sur ce qu'est un disciple, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à la rentrée dernière, le monde chrétien et puis le monde un peu en général a été... dans les médias, dans l'actualité, on a découvert ou parlé en tout cas d'un homme qui malheureusement a été tué, qui était Charlie Kirk. Et moi j'ai découvert au moment de sa mort, et j'ai découvert quelqu'un qui était chrétien et qui était militant, qui était rugueux. Et les médias français ont vu quand même une figure qui était... conflictuel et qui n'allait pas avec l'image qu'on a de ce que devait être un activiste politique, donc il s'est fait assez critiquer. Mais ça m'a interrogé de voir cette façon d'être chrétien, très militante, très rentre-dedans, et j'ai voulu revenir vers ce texte du sermon sur la montagne, savoir ce qu'est un disciple. Et alors dans ce texte, Jésus, je le dis, fait une présentation de sa loi. Il commence par, en introduction, faire le portrait du disciple, ce qu'est un disciple. Et il y a les béatitudes qui est un texte connu, heureux. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Toute une série comme ça, heureux. Un portrait de quelqu'un, non pas qui est fort, conquérant, mais de quelqu'un qui est doux, qui accepte. Celui-ci est heureux. Et puis ensuite, Jésus détaille sa loi Et c'est vraiment remarquable, hein, puisqu'il commence par dire « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et pour l'accomplir », et puis il développe un long développement pour terminer « Voilà, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent, c'est la loi et les prophètes ». Et dans ce long développement sur la loi, eh bien, j'identifie quatre parties que le cœur est également important. Il ne suffit pas de ne pas tuer, de ne pas tromper son conjoint, mais le cœur, l'intention, ce qui ne se voit pas aussi est important. Jésus parle aussi du culte, ce qu'est le bon culte. Le bon culte, ce n'est pas venir devant et se faire remarquer, regarder comme j'adore Dieu, remarquer comme ma foi est belle. Non, ceux-là, ils ont déjà leur récompense. Le vrai culte, c'est dans le secret, dit Jésus. Puis ensuite, Jésus parle de confiance et d'inquiétude, en opposant les deux. Avec cette idée dérangeante que s'inquiéter quelque part, c'est se soumettre à Mammon, le dieu du matérialisme. Quand je m'inquiète, je lui dis qu'il est important. Ne vous inquiétez pas, dit Jésus à ses disciples. Et puis Jésus parle aussi des relations avec les autres, ne pas juger, mais faire aux autres ce qu'ils veulent que vous fassiez. Et puis, conclusion de cet enseignement, avancer. Maintenant que la loi a été exposée, comment continuer, comment avancer sur le chemin? Et c'est là que se trouve le texte que je veux lire avec vous ce matin, en Matthieu 7, à partir du verset 13. Alors, si vous voulez regarder dans vos Bibles, hein, Matthieu 7, à partir du verset 13. Et sinon, eh bien, je vous invite à écouter la lecture que je fais. Donc, c'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, pardon, excusez-moi. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. » Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités contre cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Jusqu'ici, la lecture de notre texte. Un texte qui sonne quand même sérieux. Jésus avertit, parle de jugement et met au pied du mur. C'est un texte aussi avec beaucoup d'images. Et c'est un peu ce que j'aimerais faire avec vous, de regarder ces images pour comprendre ce que Jésus veut dire. Et sa première parole qui ouvre cette section, c'est « Entrez par la porte étroite ». Il existe certaines portes qui sont étroites. Quand on les voit, on voit qu'il faut baisser la tête pour passer, ou alors serrer le ventre pour rentrer. On se dit que voilà, si on fait des efforts, ça peut passer. Il arrive, j'en ai vu en Auvergne, des ruelles étroites, et quand on doit déménager, eh bien, ça doit être un casse-tête de faire arriver son déménagement jusque chez soi. La porte étroite, c'est quelque chose de difficile. Difficile d'y entrer, c'est loin d'être évident. Et justement, Jésus invite de passer par la porte étroite, la porte étroite. Qu'est-ce que c'est que cette porte étroite? Je pense que ce n'est pas juste inviter à vivre une vie difficile. Dans la conclusion du sermon sur la montagne, je pense que Jésus invite à vivre la vie qu'il vient de présenter. Vivre selon la loi, cette loi qu'il n'est pas venu abolir, mais qu'il est venu accomplir. Et pourtant, la loi juive n'a pas bonne presse. Elle est pleine de règles, et des règles dont on ne comprend pas toujours l'intérêt, comme celle du sabbat, où on a le droit de rien faire, qui apparaît plus comme une contrainte que quelque chose de logique. C'est une loi qui paraît sévère, qui condamne, qui appelle pécheurs ceux qui contreviennent. Et cette loi paraissait déjà lourde et Jésus semble l'avoir renforcée en regardant les intentions avec des passages où il a dit « Vous avez entendu qu'il faut faire ceci, mais moi je vous dis, faites plus, travaillez votre cœur, travaillez l'intention. » Jésus l'a renforcé en disant « Ne cherchez pas à vous faire admirer par les autres, mais à plaire à Dieu dans le secret. » D'avoir cette foi qui ne se fait pas voir, mais qui amasse des trésors dans le ciel, là où ils sont cachés. Jésus invite à renoncer à l'inquiétude pour choisir la confiance en Dieu et l'honorer ainsi par la confiance. Il invite à faire aux autres ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous, plutôt que de travailler à notre avantage. Et ce, à le faire pour nos amis comme pour nos ennemis, à l'image du Père. Voilà ce qu'est la porte étroite. Choisir cette vie que Jésus présente et qui est tellement exigeante. Entrer par la porte étroite, celle que les autres ne prennent pas. Pas fou, c'est difficile, on va prendre la porte qui est plus large. S'ils n'apprennent pas, c'est bien qu'il doit y avoir une raison, non? C'est qu'il y a une autre porte, plus facile. Pourquoi ne pas la prendre? Mais Jésus nous dit qu'elle mène à la perdition. Perdition, c'est un mot qui est lourd de sens. Hein. Quand on entend parler de perdition, on pense à l'enfer, à une punition donnée par Dieu, un Dieu méchant, qui nous punit si on ne fait pas ce qu'il veut. Un Dieu qui ne veut pas qu'on soit libre, qui ne veut pas qu'on s'amuse. On peut voir les choses comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu présente son action. Dieu présente son action ainsi, il est écrit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est le même Dieu qui, ayant donné la loi à son peuple, lui avait dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives. La vie que Dieu propose n'est pas un ensemble de règles destinées à nous faire souffrir. Elle est vie et bénédiction. Elle permet à l'ensemble du monde et de la création de vivre en harmonie. Et Dieu nous dit que vivre cette loi, vivre selon ses règles, c'est mieux vivre. Ou plutôt, c'est vivre la vraie vie. Jésus invite donc à passer par la porte étroite. Je sais que au début de ce mois, vous avez eu des baptêmes. Prendre le baptême, c'est un moyen de passer par la porte étroite. C'est reconnaître et afficher publiquement que Jésus a les paroles de la vie et qu'on veut vivre suivant son enseignement, sous sa direction. Dire que c'est lui qui décide pour nous. C'est aller à contre-courant d'un monde qui nous encourage à décider par nous-mêmes en recherchant ce qu'il y a de mieux pour nous, sans trop penser au reste. Passer par la porte étroite. Mais passer par la porte étroite ne suffit pas. Jésus dit qu'il faut continuer sur le chemin resserré. Parce que passer par la porte étroite, c'est comme dire « Seigneur, Seigneur !» Et Jésus condamne un peu plus loin dans le texte. Ce qu'attend Jésus, ce n'est pas seulement une déclaration d'intention, ce n'est pas seulement qu'on vienne à l'église pour chanter les louanges du Seigneur ou pour écouter la prédication, même l'écouter avec beaucoup d'attention. Dire « Seigneur, Seigneur !» C'est une bonne chose, c'est un passage obligé comme passer par la porte étroite, mais c'est sur le chemin, dans la durée, que les choses se jouent. C'est là la vraie difficulté, après la porte, sur le chemin, jour après jour. Là, avec nos amis, avec nos voisins, nos collègues, nos familles, avec ceux qui n'ont pas fait le même choix que nous, qui ne sont pas forcément hostiles, qui vivent différemment selon d'autres règles, des règles que tout le monde suit. Et si tout le monde les suit, c'est qu'elles doivent marcher, non ? Il n'est pas facile de marcher sur ce chemin resserré, il n'est pas facile de vivre selon la loi. Et dans le texte, Jésus relève deux difficultés spécifiques. Et la première, c'est de faire face aux difficultés de la vie. À la fin du passage que nous avons lu, Jésus parle de deux options de vie différentes pour celui qui entend son enseignement et le met en pratique, et pour celui qui l'écoute sans le mettre en pratique. Et vous connaissez la chute de l'histoire, il y a deux maisons, et il y en a une qui tient et l'autre qui s'écroule. Mais ce qui me frappe, c'est que les deux maisons traversent les mêmes difficultés. La pluie tombe, les torrents viennent, on n'est pas sur une petite pluie. Hein. Les vents soufflent, ils soufflent fort au point de faire tomber une maison, on n'est pas non plus sur une petite brise. Écouter Jésus, le suivre, mettre en pratique son enseignement, ça n'empêche pas les difficultés de la vie. Elles sont pour tous. La maladie qui peut venir faire souffrir, parfois pendant de nombreuses années, parfois la maladie de l'esprit, la maladie mentale, psychologique, celle qui touche au comportement, les difficultés financières, le chômage, l'insécurité administrative, les conflits également, conflits relationnels, parfois avec des proches, avec des parents, des enfants, un conjoint, parfois jusqu'à la violence, jusqu'au divorce. Ces difficultés, cette pluie, ces torrents, ce vent, les disciples de Jésus y font face aussi. Et puis nous vivons dans le même monde, nous traversons les mêmes crises économiques, écologiques. Nous sommes soumis aux mêmes dirigeants qui nous laissent parfois interrogatifs, ou pire, dans un grand désarroi. Toutes sortes de difficultés tombent sur le disciple, comme sur chacun. Elles peuvent tomber et elles tomberont. Elles tomberont sur nous parce que la différence entre celui qui met en pratique l'enseignement de Jésus et celui qui l'écoute sans le mettre en pratique, elle se voit là. Elle se voit quand les difficultés viennent. Ce sont elles qui révèlent si la maison qu'on bâtit, elle tient ou pas. Le chemin est difficile, il y a les difficultés de la vie. Jésus révèle qu'il y a aussi ce qu'il appelle les prophètes de mensonges. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, ou là, qui prétend parler de sa part. Et Jésus dit qu'il en existe. Qu'il existe des prophètes dont le discours est un mensonge. Et je trouve que cette révélation est perturbante. Parce que on vient à l'église et on pense pouvoir baisser sa garde. On espère pouvoir baisser sa garde. Mais Jésus se dit que ces prophètes de mensonges existent et se trouvent au milieu des croyants, déguisés en moutons. Le mouton, l'animal docile qui suit le berger, comme dans le psaume que nous aimons tant, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si ces prophètes parlent de mensonges, ils n'enseignent pas la vérité, mais qu'enseignent-ils alors? Je pense, dans le contexte de ce que nous lisons, que plutôt que d'enseigner la porte étroite et le chemin resserré, ils élargissent porte et chemin. Peut-être vont-ils nous inviter à nous écarter des paroles de Jésus, de prendre des distances. Pas besoin d'être aussi radical. On peut faire comme tout le monde. Il suffit de porter un t-shirt « J'aime Jésus » et ça passe. Jésus évoque leur motivation. Ce sont des loups voraces. Le loup, c'est un prédateur du mouton. Ils sont voraces, ils les dévorent. Alors, on ne parle pas d'anthropophagie là, il n'y a pas des prophètes dans l'église qui se mettent à cuisiner certains autres membres de l'église. Mais je pense qu'on peut comprendre en disant que ces prophètes ne sont pas, comme ils le prétendent, sur la même ligne que les croyants. Ils ne sont pas devant le Seigneur, mais ils sont là pour servir leur intérêt et pour se servir des autres, des moutons, pour leur intérêt, pour se faire briller, pour obtenir des avantages, des satisfactions personnelles. Ils utilisent les autres croyants. Et la préoccupation de Jésus, c'est que nous sachions les reconnaître. Et ce n'est pas facile de les reconnaître parce qu'ils sont bien déguisés. Jésus dit, n'essayez pas trop de faire tomber les masques, regardez les fruits. C'est les fruits qu'il faut regarder. C'est à ce qu'ils produisent que vous les reconnaîtrez. Mais quels sont ces fruits ? crois que les fruits dont parle Jésus, ce n'est pas le succès évangélique qu'on peut avoir dans l'évangélisation. Ce n'est pas le nombre de personnes qui les suivent, ni même le nombre de personnes qu'ils amènent à l'Église. D'ailleurs, si on se a en mémoire ce que Jésus dit plus tard avec la parabole du semeur, il est hasardeux de compter trop vite les plants de blé qui poussent, que certains ne tiennent pas longtemps. Ce n'est pas le succès, ce n'est pas non plus le nombre de miracles qu'ils vont pouvoir faire, de démons qu'ils chassent, de paroles qu'ils disent de la part du Seigneur. Jésus dit à certains de ceux qui ont produit ces miracles, « Je ne vous ai jamais connus. » Il existe des gens qui sont accompagnés de grands signes et qui pourtant ne sont pas connus du Seigneur. Je crois que les fruits, on les voit plutôt dans le caractère. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit du début du sermon sur la montagne avec les béatitudes. Jésus dresse le portrait du croyant, pauvre en esprit, doux, compatissant, au cœur pur, artisan de paix, ayant faim de justice, acceptant de pleurer ses pertes plutôt que de s'acharner, acceptant d'être persécuté, et heureux. Heureux de cela. Je pense vraiment que Jésus parle de cela lorsqu'il parle du fruit. Au passage, une description assez proche de ce que Paul appelle le fruit de l'esprit dans Galates. Jésus parle de fruits, il parle de raisins, de figues, des fruits qui sont sucrés et qui sont doux. Quelque part, il dit, ne vous laissez pas avoir par certains pénibles qui grattent comme des épines ou des chardons. Recherchez plutôt quelqu'un qui ressemble à Jésus, notre Seigneur, qui dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Arrivé à ce point, peut-être que vous êtes un peu plombé par ce que j'ai dit. Je le disais au début, ce texte, il est sérieux, il est grave. Est-ce qu'on y trouve un encouragement? Parce que pour l'instant, on parle d'avancer à contre-courant, de difficultés qui nous attendent. Et en plus que parmi nous, il y a des loups. Ce que j'aimerais, c'est pointer vers celui qui est digne de confiance, vers Jésus. Jésus qui est l'inverse de ces loups. Contrairement à ces loups qui viennent dévorer ceux qui les écoutent, Jésus est venu pour servir et pour sauver. Nous le voyons dans l'Évangile. Il nous donne un modèle, il nous montre comment vivre. L'enseignement exigeant qu'il donne, il se l'est appliqué à lui-même, devenant pour nous plus qu'un enseignant, mais un modèle. Jésus, il n'est pas du genre à dire « Faites ce que je dis, moi je fais ce que je veux. » Le chemin étroit, le chemin exigeant, il l'a pris et il l'a pris jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, il a été tué parce qu'il dérangeait trop. Parce qu'il dérangeait trop les responsables religieux de son temps qui ont voulu se débarrasser de lui et de cette radicalité encombrante. Et au-delà de sa trajectoire, de sa mort, je dirais qu'il nous montre aussi le modèle de réussite ultime. Non pas parce qu'il a eu du succès dans la vie, mais parce que à sa mort, parce qu'il était juste, Dieu l'a ressuscité. Et parce qu'il règne aujourd'hui à côté de Dieu. Alors oui, l'encouragement à lui emboîter le pas et à faire comme lui, vivre avec lui. Et si ce chemin vous semble toujours difficile, que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peur que, en ce jour-là, le jour où Jésus revient et où il fait les comptes, quand ce jour-là, vous ne soyez pas à la hauteur, souvenez-vous. Souvenez-vous de cette prière que Jésus a enseignée, ben justement, dans le sermon sur la montagne, le Notre Père. Et dans cette prière, Jésus met une importance particulière sur le pardon. Il conclut, si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Le Père qui sait ce dont nous avons besoin jour après jour. Et si nous trébuchons sur ce chemin resserré, il nous promet de nous relever. Si nous nous efforçons de marcher suivant ses commandements, soyons assurés qu'il nous pardonnera. Je le répète, il le promet. Parce que ce qu'il compte, ce qu'il demande, ce n'est pas d'arriver au plus haut sommet du monde ou de faire je ne sais quel exploit. Ce qu'il nous demande, c'est de continuer, pas à pas, sur le chemin resserré. Ralentir quand c'est nécessaire, mais persévérer dans ce sens. Celui qui a pris son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment prenez-vous ce texte, cette exhortation de Jésus de choisir la difficulté de la porte étroite du chemin resserré. Avec ce qu'il suit, il y a une certaine gravité. On peut avoir peur lorsque Jésus parle de perdition, de jugement qui révélera à la fin si le Seigneur connaît ou non ceux qui se réclament de lui. En traversant une vie de difficulté, y arriverai-je? Je crois que il ne faut pas éluder la question. Pour la Bible, la question est importante. Il est important de savoir où on se destine. Mais cette question ne doit pas nous paralyser. Parce que dans ce texte, il y a aussi une promesse merveilleuse. Celle de voir sa maison tenir bon malgré les tempêtes de l'existence. Cette promesse de trouver la vie, la vraie. À la fin de ce texte, avec la comparaison entre les deux maisons, Jésus distingue celui qui entend ses paroles et les met en pratique de celui qui les entend et ne les met pas en pratique. Les deux entendent les paroles de Jésus. Et nous aussi. Ce matin et dimanche après dimanche, nous entendons les paroles de Jésus. Aussi, je pose la question. De quel côté voulons-nous être? De quel groupe voulons-nous être? De ceux qui trouvent dans les paroles de Jésus des paroles de sagesse inspirantes sur lesquelles ils veulent réfléchir? Ou de ceux qui les mettent en pratique dans leur vie, même si c'est difficile, même si ça va à contre-courant, même quand les éléments se déchaînent sur notre maison? De quel groupe voulons-nous être? Je laisserai le dernier mot à Jésus. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas. Parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre.